DW. Pulsation.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro et c'est Pulsation qui se fait à nouveau l'écho aujourd'hui de la voix des femmes.
Comment les jeunes filles africaines pensent le monde de leurs conditions? Comment s'engagent-elles dans la société? Pas sans elles, c'est le projet de la DW qui tente de répondre à toutes ces questions en donnant la parole aux jeunes filles d'Afrique. Pas sans elles, la parole aux femmes.
Nous retrouvons Salimata Na Traoré, doctorante au Burkina Faso, Emmanuela Zandi, militante féministe de République démocratique du Congo, et Amour Agon-Josu, étudiante du Bénin. Elles discutent aujourd'hui de la famille au micro de Wendy Bashi. Pour commencer, les morceaux choisis de cette deuxième édition de Pas sans elle, la parole est à Salimata.
De ma mémoire, la famille, pour moi, ça a été en fait ce cocon-là où je me sentais en fait dans mon monde. De sorte que, pour la petite histoire, je crois qu'il y avait des oncles et des tantes qui se plaignaient souvent du fait que je ne pouvais pas aller chez eux pendant les vacances parce que je suis trop attachée à papa et maman et je veux toujours être là avec eux et tout. Et quand ils ne sont pas là, je suis toute, en fait, en même temps stressée, je sens comme si je ne suis pas en sécurité.
Alors, on va faire un petit tour, on va aller du côté de la République démocratique du Congo. Emmanuela, quel est votre meilleur souvenir de la famille? Si vous pensez à un souvenir le plus beau, qu'est-ce qui vous revient à l'esprit?
C'est la cohésion qu'on avait, mes frères et moi, et surtout la taquinerie qu'on avait, mes frères et moi. Aujourd'hui, nous sommes tous partis pour étudier chacun dans sa vie. Et je me rappelle juste du moment où on se mettait tout le temps ensemble à 18h, par exemple, pour prier ensemble. Et ça renforçait les liens qu'on avait ensemble dans la famille.
Alors, Amour, je viens de votre côté, au Bénin. Dites-moi, quel est le plus beau souvenir de la famille que vous chérissez?
Je ne dirais pas que c'est un souvenir parce que c'est toujours d'actualité. C'est cet amour-là que nous partageons l'un pour l'autre dans la famille. Même si une personne entre nous est loin, on arrive à garder ce lien-là qui, jusqu'à présent, reste fort.
Alors, je vous entends toutes les trois, Emmanuela, parler des taquineries avec ses frères. Salimata nous explique qu'elle n'aimait pas trop aller en vacances, elle préférait rester à la maison. J'ai envie de vous demander à toutes les trois, dans quel genre de famille est-ce que vous avez grandi, Amour?
Bon, j'ai grandi dans une famille harmonieuse, je dirais. Harmonieuse où le soutien, la confiance, la communication, la compréhension prime, en fait. Quel que soit ce qui se passe, nous arrivons toujours à nous serrer les coudes pour trouver des solutions aux problèmes et les bons moments, nous les vivons ensemble. Il n'y a que du beau.
Je suis quand même très d'écouter dire tout ça sur ta famille parce que moi personnellement c'est dans la même ambiance que j'ai grandi aussi et aujourd'hui avec un petit pincement au cœur j'ai dû quitter ce cocon parce que je me suis mariée et j'ai eu pouvoir on va dire de fonder ma propre famille mais en même temps c'est avec une grande joie parce que je me dis que j'ai eu un modèle qui me permet en fait de m'inspirer et de faire encore mieux en fait.
Vu que nous sommes toutes les quatre ici des femmes, j'ai envie de vous demander quelle place occupent les femmes au sein de vos familles respectives. Est-ce que, par exemple, il y a des différences entre les générations? Amour, je me tourne vers vous.
Je dirais non, de mon côté, il n'y a pas cette différence-là. Je dirais que la femme a toujours eu cette place très importante dans la famille. C'est elle qui éduque jusqu'à présent le plus ses enfants. Et quel que soit ce que son mari traverse, c'est souvent à sa femme qu'il donne le plus de responsabilités.
Emmanuela, j'ai envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que, par exemple, vous, peut-être, vous avez innové au sein de votre famille par rapport au rôle et à la place que jouent les femmes?
Pour moi, c'est presque la même chose comme Amour. Tout le monde avait une place égalitaire dans ma famille, mais par contre pour mes grands-parents ce n'était pas du tout le cas. Je me rappelle ma grand-mère, elle était enseignante, mais il y avait quand même cette connotation stéréotypée de la place de la femme inférieure dans le foyer. Ce qui n'a pas été le cas forcément avec ma mère, qui nous a, elle, inculqué une autre vision, une autre manière de voir les choses. Chez nous, en tout cas, j'ai été éduquée de la même manière que mes frères. J'ai eu la même chance que mes petits frères, que mes cousins, et c'était égalitaire.
Je crois que nous faisons partie, nous trois, de la minorité chanceuse en la matière, parce qu'à les écouter, je vois vraiment que c'est quasiment la même chose. Mais chez le voisin à côté, on pouvait clairement voir que ce n'était pas le cas, en fait. Et c'était flagrant. Parce que moi, j'ai grandi avec des amis dans le quartier qui étaient dans une situation où, quand je leur posais, par exemple, la question de savoir est-ce qu'on leur a demandé leur avis, est-ce qu'ils peuvent dire non. Et en fait, elles étaient choquées. Elles me disent, mais comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Je n'ai pas le cœur, en fait, pour dire non, même si je ne veux pas. Donc, moi, je voyais que c'est tout bizarre, en fait. Parce que moi, quand je ne veux pas, je dis non.
Quand je vous entends, vous avez grandi dans de belles familles où il y avait le dialogue, où il y avait l'amour. On a cultivé des belles valeurs en vous. Mais la famille, c'est aussi un lieu de pression. Ça peut être un lieu de pression. Il y a des familles, par exemple, où on dit aux jeunes filles, tu as 23 ans, tu vas juste chanter dans les mariages des autres. C'est quand ton mariage à toi. Est-ce que vous avez vécu ce genre de situation où la famille peut devenir très vite oppressante? Emmanuela, je vais commencer avec toi.
Oui, moi je viens de l'Est de la République démocratique du Congo et je suis présentement à Kinshasa dans la capitale. Et Kinshasa a une connotation d'être réputée comme un endroit où les filles n'aiment pas se marier tôt parce qu'elles doivent travailler, elles sont épanouies. Mes tantes me disent, mais non, il ne faut pas faire comme les filles de Kinshasa, il faut te marier tôt. Tu es d'ailleurs très intelligente, il faudra que tu puisses avoir un homme à tes côtés qui va te diriger parce qu'on sent que tu as besoin de quelqu'un qui puisse te dire, Manuela, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Et c'était une grande pression sur moi. C'est une pression qui s'exerce beaucoup sur les jeunes filles de mon âge et qui ne savent plus faire le choix entre leur propre bien-être et leur épanouissement et satisfaire la famille. J'ai la vocation de me marier comme Salimata. J'ai vraiment envie de fonder une famille. Mais il faudrait que je sois prête personnellement pour pouvoir dire que oui, je me lance dans le mariage.
Je voulais poser une petite question à Emmanuela pour savoir comment elle arrive à gérer cette pression-là de son côté.
Du fait que je sois loin de la famille, c'est quand même une pression lointaine, même si ça m'atteint quand même personnellement. Et je voudrais bien faire le doctorat comme Salimata. Et donc, je leur dis, bah, écoutez, je dois d'abord étudier. Et je crois que ça bloque cette pression, mais pas totalement, parce que c'est presque chaque mois, quand il y a un mariage de tel, on te dit, ah, tu vois ton amie avec laquelle tu as étudié en première CO, elle s'est mariée maintenant. Bon, OK. Je fais, comment alors? Donc, je ne sais pas comment m'en sortir forcément. Mais il doit y avoir forcément quelque chose, mais je crois que c'est vraiment rester sur ses opinions et dire que oui, je veux me marier un jour, mais là, je fais d'abord ce qui, moi, me plaît.
Salimata est jeune, elle est mariée et elle fait un doctorat. Comment est-ce possible? Est-ce que aussi vous avez été exposée à la pression?
J'ai effectivement été exposée à cette même pression, je crois qu'on n'y échappe pas. Et le plus curieux, c'est que pour la chance que nous avons eue avec des parents assez ouverts sur le monde et qui comprennent bien l'importance pour une jeune femme de faire ses choix et d'être dans l'assurance d'avoir la personne qu'il faut et de privilégier son propre épanouissement et tout. Mais en fait, c'est toujours à côté, là. C'est toujours une tante à côté ou un oncle à côté. En fait, c'est ça le problème. Parce que finalement, ce n'est pas papa et maman. Eux, ils sont dans la compréhension de ce que tu as comme projet de vie. Et quand le moment viendra et que tu sentiras que tu as la personne qui te convient, tu viendras le présenter et ils feront les choses comme il faut. Donc, les tantes, elles trouvent, les oncles, elles trouvent que c'est comme si on n'y pensait pas du tout. Alors que non, on y pense et à un moment donné, en tant que jeune fille, on a peut-être un copain, on a un amoureux qu'on essaie de cacher tant bien que mal. Mais avec les objectifs qu'on a, on privilégie des choses. On sait qu'il faut que je fasse ci d'abord et ensuite ça, parce que tout se prévoit. Et je crois que pour ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un qui me comprend. Mais je sais que jusqu'au master, je n'étais pas encore mariée. Je me suis mariée à ma première année de thèse. Et quand j'ai annoncé à une tante que je partais en France faire une thèse, Et elle m'a regardée, elle m'a dit, ah, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu as fait le bac, tu as fait la licence, tu as fait le master. Et en fait, pour elle, c'est le summum, quoi. Comment est-ce que tu peux vouloir encore
aller
loin?
Plus loin, ouais. On arrive aussi, lentement, mais sûrement vers la fin de l'année, le moment où on se retrouve tous dans cette chaleur familiale. Amour, sur base de quel pilier sera construit votre famille idéale?
Moi, je me baserai beaucoup plus sur l'amour et la discussion, c'est-à-dire la communication, parce que c'est par là que tout passe, en fait. Une famille dans laquelle l'enfant n'a pas le droit de parler à son père parce qu'il a peur, ou une famille dans laquelle la mère ne peut pas s'approcher du père pour lui demander quoi que ce soit, ce n'est pas du tout agréable. On n'arrive pas à se sentir épanoui dans ce genre de famille, et c'est des problèmes qui suivent après. Donc, pour moi, la base pour qu'une famille soit heureuse et épanouie, c'est l'amour, la compréhension et la communication.
Je me tourne vers Emmanuela. Sur quel pilier est-ce que vous allez construire votre famille idéale?
Je crois que je vais rejoindre Amour, tout en ajoutant juste beaucoup plus d'intégrité, de sagesse et plus de responsabilité.
Merci. Et je me tourne vers Salimata pour clôturer.
Je crois que ça ne va pas vraiment sans ce que Amour et Emmanuela l'ont dit, la communication, la confiance, l'amour, mais aussi le fait que chacun se sente à sa place, en fait, que chacun se sente à être membre d'une famille. Et ce n'est pas comme si on se suivait, mais c'est parce que chacun assume le rôle qu'il a. En tant qu'enfant, si un jour je l'ai, je lui ferai comprendre qu'il a pleinement son rôle, qu'il a été voulu et qu'il a son mot à dire, mais avec la manière qu'on va lui inculquer, avec l'éducation qu'on lui donnera, parce qu'il ne s'agit pas de dire non et de hausser le ton sur ses parents et tout, mais on peut très bien dire qu'on n'est pas d'accord et avec la manière. Et du coup, j'ajouterai peut-être aussi une bonne dose de foi, parce que je crois beaucoup en Dieu et je crois au fait qu'il y a beaucoup de choses que l'on ne maîtrise pas forcément, mais qui se stabilisent tout seul.
Merci à Wendy Bashi et ses invités. Nous retrouvons Pas sans elle pour un nouveau débat dans quelques semaines. Pour conclure, quelques notes de Images de famille de Manu Dibango, c'est du jazz. Vous accédez au podcast de Pulsation sur dw.com/français, rubrique médiathèque. Bonne continuation sur la DW. Salut.